Radio Okapi.
En ouverture de ce journal, la déclaration de la chef de la MONUSCO à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, Bintou Keïta, souligne la nécessité de voir l'Ouganda et la RDC permettre à la MONUSCO de continuer d'appuyer les FRDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés conformément à son mandat dans la partie est de la RDC. À suivre aussi dans ce journal, l'incendie par des jeunes en colère d'un véhicule transportant des vivres destinés à des déplacés dans le village de Kassissi. Nous sommes là dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Le coordinateur provincial de l'environnement du Tanganyika intervient en fin de cette édition comme invité de ce journal. C'est pour parler des actions nécessaires à mener en rapport avec la protection de l'environnement. C'est en marge de la commémoration hier 5 décembre de la Journée mondiale de l'arbre. Merci de faire confiance à Radio Okapi pour votre information, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Billy Van Lutumba devant ce micro pour la présentation de ce journal vespéral. Cette nouvelle d'actualité d'abord, liberté provisoire accordée ce lundi à Vital Kamerhe, président de l'UNC, selon des sources de la Cour de cassation. Selon ces mêmes sources, cette liberté est assortie d'une grande caution et de certaines conditions. Reste maintenant à notifier l'ordonnance de la Cour aux concernés et aux responsables de la prison centrale de Makala pour exécution. Mais il reste à la disposition de la Cour où son pouvoir en cassation va se poursuivre en dépit de cette liberté. Nommé directeur de cabinet du chef de l'État en janvier 2019, Vital Kamerhe a été arrêté le 8 avril 2020 et condamné à 20 ans de prison au premier degré, puis à 13 ans au deuxième degré avec l'entrepreneur libanais Jamal Sami, 79 ans pour le détournement d'environ 50 millions de dollars. Premier titre de cette édition, la chef de la MONUSCO dit avoir pris note de la décision souveraine de la RDC d'amorcer les opérations militaires conjointes avec l'Ouganda au Nord Kivu et en Ituri. Cependant, Bintou Keïta affirme avoir souligné aux deux États la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus, mais aussi de permettre à la MONUSCO de continuer d'appuyer les FRDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés conformément à son mandat. Elle l'a déclaré ce lundi au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. On écoute Bintou Keïta dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Dans mes interactions avec les plus hautes autorités des deux États, j'ai pris note de la décision souveraine de mener cette action militaire conjointe et j'ai souligné la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus des Nations Unies et de permettre à la mission de continuer d'appuyer les FRDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés conformément au mandat qui lui a été accordé par ce Conseil. Ces mécanismes sont en train d'être mis sur pied. À cette fin, le 2 décembre, le commandant de la force de la MONUSCO s'est rendu à Kampala pour définir avec les autorités les modalités pratiques de cette coordination tripartite qui couvrira, entre autres, les aspects liés à la sécurité de l'aviation, la protection des forces participant aux opérations et l'accès humanitaire aux populations affectées. Demain, le commandant de la force sera à Kinshasa pour rencontrer la hiérarchie militaire des FRDC afin de poursuivre ce dialogue initié à Kampala. Je tiens également à souligner que la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, va continuer de suivre et rapporter toute violation éventuelle des droits humains commise sur le territoire congolais.
En Ituri, 7 personnes sont mortes, dont 2 rebelles des ADF, pendant les affrontements le week-end entre les FRDC et ce groupe armé au village Massomé dans le territoire d'Iromo. Cette nouvelle attaque a créé la panique au centre commercial des Komanda situé à 10 km de la zone des combats. Le président de la FEC déplore également le meurtre d'un commerçant dans cette localité. La société civile et la FEC locale demandent aux services de sécurité d'intensifier des patrouilles pour prévenir les menaces de l'ennemi qui circulent dans cette région. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
De nombreux habitants des Komanda de Makayanga et leur périphérie exercent les activités agricoles au village Massomé situé à 10 km dans la brousse sur l'axe Komanda Luna. Le samedi dernier, certains agriculteurs qui s'y rendaient ont été surpris par des tirs d'hommes en armes identifiés aux rebelles des ADF qui sont en errance dans cette zone. 5 personnes ont été tuées, dont le président d'une coopérative des commerçants du territoire d'Irumu basée à Komanda. Des sources concordantes indiquent que d'autres personnes ont été prises en otage par ces rebelles. sols. Ces derniers ont également incendié deux motos et quelques habitations des cultivateurs. Aussitôt alertés, l'armée a poursuivi l'ennemi pour étouffer la menace. Deux rebelles ont été tués pendant les affrontements entre les deux parties. Le président de la FEC, Komanda, indique que la population de la zone vit dans la peur à cause de la présence de ces groupes armés dans la forêt, ce qui nécessite une intervention musclée des FARDC pour la protection des civils. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
La jeunesse de la région de Boutembo-Béni doit s'unir et soutenir les autorités pour participer aux efforts de pacification de cette partie du pays en proie à l'insécurité. C'est le message lancé dimanche par la jeunesse de l'église du Christ au Congo au cours d'un culte d'exhortation organisé à Boutembo. Des centaines de jeunes des églises protestantes, membres de l'ESCC ainsi que des autorités religieuses et administratives locales y ont participé. Au micro de Grace Amzati, Dani Ndaliko, président de la jeunesse de l'ESCC à Boutembo, parle des raisons de l'organisation de ce culte.
L'objectif était de prier, de louer Dieu, mais aussi faire des exhortations par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Beaucoup plus redonner espoir à cette jeunesse qui traverse des moments difficiles. Le traumatisme qui est dû au massacre, à la vie difficile, les jeunes n'ont pas de boulot et beaucoup d'autres situations difficiles. Il était question de prier pour nos autorités qui sont en train de se battre aussi de leur manière pour chercher les solutions aux situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Il fallait prier en particulier pour l'état des sièges que le président de la République a instauré comme moyen de restaurer la paix ici chez nous. Nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas directement dire que l'état des sièges ne va pas apporter la solution. Nous avons montré à cette jeunesse qu'elle doit être unie, qu'elle doit être forte, qu'elle doit être visionnaire, qu'elle ne doit pas croiser les bras, qu'elle a une partie des responsabilités, qu'elle a une partie des solutions. La jeunesse doit savoir qu'elle est une force. Et cette jeunesse ne doit pas rester en train de critiquer seulement ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui, mais elle doit mettre la main dans la pâte pour trouver les solutions.
Parlant de la pacification de la jeunesse dans la partie est du pays, sachez qu'un véhicule transportant des vivres destiné à des déplacés a été incendié la nuit dernière par des jeunes du village Kassisi à environ 50 km à l'est de Boutembo dans le territoire de Béni. Au cours de la même nuit, d'autres véhicules du même convoi ont failli connaître le même sort au niveau de la commune rurale de Kiondo. Joachim Viagula, bourgmestre de Kiondo, confirme les faits. Suivez les explications de Florida Karambo.
Il s'agit d'un convoi de 8 véhicules privés qui transportaient des vivres avec la mention PAM, convoyée par la Caritas Goma. 5 véhicules partaient à destination de Kiondo et les 3 autres en direction de Vurusi, un village riverain du parc national de Virunga, dans la chefferie de Bachou. Le bourgmestre de Kiondo affirme que les jeunes de sa commune sont agités ces derniers jours à cause des rumeurs sur une probable incursion des rebelles de ADF. L'arrivée de ces véhicules au milieu de la nuit aurait éveillé des soupçons. Un groupe de jeunes a alors pris pour cible les véhicules transportant l'aide humanitaire. La police est intervenue en tirant des coups de feu, des sommations, pour disperser la foule, rapporte le bourgmestre. Le conducteur a réussi à s'échapper. Le bourgmestre de Kiondo appelle la population à alerter les autorités en cas de suspicion dans la zone au lieu de chercher à vouloir se défendre contre toute prétendue menace. Il appelle également les humanitaires à éviter des voyages nocturnes. Sans commentaire, la Caritas Goma confirme la supervision de cette distribution des vivres. Boutembo, Florida Kaambu. Radio Okapi.
Le député national Jado Mangwengwe appelle tous les Congolais à s'approprier les opérations conjointes menées par les FARDC et l'armée ougandaise. L'élu de Béni, qui l'a déclaré lundi à Radio Okapi, appelle notamment les députés nationaux à veiller à l'exécution du budget alloué à l'armée. Il recommande aussi aux populations de Béni et de l'Ituri de dénoncer les complices. On écoute le député national Jado Mangwengwe, joint par Alain Irung.
Nous sommes tous appelés à nous approprier ces opérations, chacun en ce qui les concerne, aux compatriotes de Béni et Ituri, de fournir toutes les informations nécessaires, de dénoncer tous les complices et tout le mouvement suspect, aux FARDC, nos vaillants militaires, de travailler sans relâcher, aux honorables députés d'insister sur l'exécution du budget alloué à l'armée et de toujours faire un suivi sur terrain, à l'appareil judiciaire de renforcer l'équipe des magistrats pour que vite soient traités tous les dossiers des ADF et collabos détenus dans des prisons. Au gouvernement congolais, d'être toujours trop attentif aux états de besoin de notre armée qui est au front aujourd'hui sur terrain avec le partenaire ougandais. Aux hommes des dieux, d'organiser des prières pour que le maître suprême de l'univers, le Dieu le Tout-Puissant, puisse aussi accompagner ces opérations. Nous sommes vraiment tous appelés à capitaliser cette opportunité nous offerte par le chef de l'État.
Province du Maniema à présent, la situation humanitaire des populations des aires de santé de Salumu, Balsi, Kimbunda et de Kapeya dans le secteur de Wamaza, en territoire de Kabambare, reste préoccupante. Le député provincial de Kabambare qui alerte fait savoir que plusieurs familles ont fui les affrontements entre les militaires venus du sud Kivu et les Maïmaï dans cette partie de la province du Maniema se sont réfugiés dans la forêt et d'autres dans les villages voisins. Thierry Badisungu Kamanga ajoute que plusieurs de ces familles passent nuit à la Belle Étoile et sans aucune assistance, d'où son appel à une intervention urgente en faveur de ces Congolais. Thierry Badisungu au micro de Florence Kizalunga.
Que la situation humanitaire de cette population est catastrophique. On ne sait pas, selon les informations à notre possession, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune assistance de la part du gouvernement provincial, encore moins du gouvernement central. Même les ONG humanitaires n'ont pas encore pensé même comment venir à rescousse cette population en termes même de bâches, ainsi de suite, les exposer à des multiples maladies. C'est pour cela que nous avons pensé, pour la plénière d'aujourd'hui, présenter cette motion incidentielle qui a rencontré également les consensus de tous les députés présents à l'hémicycle aujourd'hui. Et nous sommes arrivés à voter une recommandation adressée au gouvernement provincial pour l'exiger de tout mettre en œuvre, d'abord pour éradiquer l'insécurité qui refait si face dans les territoires de Kabambare, mais aussi arriver à prendre toutes les dispositions nécessaires pour aider tous les déplacés qui se retrouvent dans les aires de santé de Kapea, et évidemment ceux-là qui se retrouveraient dans les aires de santé de Katimba, Biyungi et Mombese, dans les secteurs de Bébé Kabambare Baombo et les secteurs de Bébé Baemba.
Santé au sud Kivu, flambée des nouveaux cas de choléra dans l'aire de santé de Mississi à l'extrême sud du territoire de Fizi. Le président de la société civile Force Vive à Mississi, Michi Muzalio, a parlé de 21 personnes déjà décédées depuis le week-end à la suite de l'épidémie, dont 11 au centre de santé État, 5 dans une structure sanitaire privée et 5 autres dans la communauté. L'infirmier titulaire du centre de santé État de Mississi et représentant du médecin chef des zones de santé dans l'aire de santé de Mississi précise que 8 personnes sont déjà décédées, dont une personne au centre de santé État et 7 autres dans les structures privées dans la communauté. On l'écoute dans l'air, on écoute plutôt Amissi, qui est responsable de l'aire de santé de Mississi, joint par Fiston Goma.
Il y a un décès au niveau de la structure. Et dans la communauté, nous avions déjà enregistré 7 décès. Au total, c'est 8 décès. Et au niveau de la structure, nous hébergeons 15 malades du choléra. Parmi les pathologies, les maladies des mains sales. C'est-à-dire à la saleté qui se trouve au niveau de Mississi, c'est carré minier. Il y a l'engouement de personnes et il n'y a pas vraiment assuré l'espace. Les gens sont condensés. Quand la pluie tombe et quand il y a des saletés, l'eau reste de l'érosion. Et comme nous n'avons pas de sources aménagées, des vibrios qui entrent dans les sources, ce qui provoque maintenant le choléra. Le bureau central de la zone de santé de Kimirurenge nous a déjà assisté avec quelques cartons de rangers et le chlore. Mais c'est une quantité insuffisante compte tenu de la population que nous avons. Mississi a une population de 164 555. Et quand de telle épidémie s'éclate, j'ai peur parce que nous n'avons pas de partenaires sur place dans Mississi.
Le Bureau des coordinations et de suivi du programme sino-congolais BCSPC appelle le peuple congolais et tous les Africains de manière générale à n'accorder aucun crédit au rapport de 19 médias partenaires et des 5 ONG étrangers dénommés Congo Hold Up. Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi à Kinshasa sur le projet des coopérations sino-congolais, ce bureau est revenu sur les différentes clauses contenues notamment dans des contrats entre l'État congolais et des groupes d'investisseurs chinois. Parmi ces contrats, précise le BCSPC, il y en a des privés sans aucun engagement avec le gouvernement. John Omombo, porte-parole du Bureau des coordinations et des suivis du programme sino-congolais.
Le BCPAC n'accorde aucun crédit à ce rapport. Il s'agit d'une campagne de diabolisation qui vise à décourager les Africains à œuvrer dans le secteur bancaire, à jeter un discrédit sur la Banque centrale du Congo, comme si la Banque centrale du Congo n'arrive pas à jouer son rôle, alors que eux savent que la Banque centrale du Congo est appelée à discuter avec le FMI et la Banque mondiale. On jette un discrédit sur des personnalités, une sorte de fixation, un fixisme sur des personnalités, un discrédit sur la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. C'est un rapport qui n'a aucun crédit.
Qui a sorti au moins des révélations avec des chiffres.
Le problème, c'est savoir quel est l'état actuel du projet de coopération sino-congolais, le projet minier, le projet d'infrastructure et la centrale hydroélectrique de Busanga qui a posé problème. Les gens ne se sont pas rendus compte qu'il y a une loi qui libéralise le secteur de l'énergie et ne savent pas que le projet Busanga est un projet privé. Et l'État n'a rien à voir dans ce projet parce que l'État n'a rien investi, n'a rien garanti et l'État ne payera rien. Au contraire, l'État a été porté par les entrepreneurs chinois pour que l'État aille un droit de regard à travers la SNEL et la GECAMI. Mais l'État n'a rien investi. Personne ne peut démontrer par un quelconque élément que l'État a investi dans le projet Busanga. Ce sont des questions qui nous intéressent, pas Congoldap. Heureusement, l'IGF, en toute responsabilité, a rétabli la vérité, a recadré les choses.
Dans la série des révélations de Congoldap parlant de la convention signée entre la Chine et la RDC pour des prêts d'un montant de 6,2 milliards de dollars pour l'exploitation des gisements en RDC contre des infrastructures, ces médias et ONG indiquent entre autres qu'au moins 30 millions de dollars ont été versés au premier cercle de l'ancien président Joseph Kabila et une partie des fonds ont transité par le compte du bureau des coordinations et des suivis du programme sino-congolais.
Actualité internationale.
Au moins 12 militaires nigériens et des dizaines de terroristes ont été tués samedi dans d'intenses combats dans l'ouest du Niger, à l'intérieur de la zone dite des trois frontières, a annoncé dimanche le ministère nigérien de la Défense. Les accrochages ont eu lieu à 5 km de la localité de Fantio entre les militaires nigériens et des centaines de terroristes armés. Selon un communiqué, 12 éléments sont tombés sur le champ d'honneur, 8 blessés, alors que, côté ennemi, des dizaines de terroristes ont été neutralisés.
L'invité.
Le monde a célébré hier dimanche 5 décembre la journée mondiale de l'arbre. Pour le coordinateur provincial de l'environnement du Tanganyika, le moment vient pour les acteurs engagés dans la protection de l'environnement et les paysans de conjuguer les efforts en commun afin de planter chacun un arbre de demain. Paul Senga est l'invité de Radio Okapi, il en parle dans cet entretien réalisé par François-Xavier Mibé.
Paul Senga, bonjour.
Bonjour, Monsieur François Zadi.
Actualité oblige. Il y a déjà quelques semaines que la communauté internationale a clôturé les travaux à Glasgow dans le cadre de la COP26 et nous sommes en Écosse. Et les lampions se sont éteints là-bas avec l'objectif de lutter contre les réchauffements climatiques. Le 5 décembre, c'est la journée de l'arbre. Mais comment vous représentez-vous aujourd'hui la situation de l'arbre, de la forêt dans la province du Tanganyika? Paul Senga.
Merci pour la question. Au niveau d'abord de la forêt, nous connaissons un sérieux recul de nos forêts. Parce qu'il y a 7 ans, quand je viens d'arriver ici à Kalemie, la braise qu'on appelle communément le Makala, ça se produisait à quelques kilomètres d'ici, à moins de 25 kilomètres. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un sac de braise, il faut aller à plus de 60 kilomètres de Kalemie. Ça fait un aspect de recul de la forêt. Et même nos exploitants forestiers ont de la peine à trouver des arbres pour produire de bonnes planches de bois d'œuvre. Ils doivent aller maintenant des centaines de kilomètres d'ici. Ça fait autant d'aspects qui font que notre forêt est en train de reculer. À ces deux aspects, ajoutez aussi la pratique de l'agriculture itinérante et sous-brûlis. Les gens qui fauchent des forêts pour faire des champs, c'est vraiment une façon de décimer nos forêts. Si nous excluons la forêt, du côté de nos eaux ici, c'est encore une catastrophe. Nous sommes en train de vivre un phénomène qu'on n'a pas encore vécu pendant des années. Il y a l'avancée très regrettable des eaux du lac Tanganyika. En 2014, quand je venais, le lac Tanganyika était à une bonne distance. Aujourd'hui, les plages ont disparu parce que les eaux s'avancent avec beaucoup d'inquiétude parce que d'ici là, nous n'aurons pas la route qui mène vers l'aéroport. Le lac est en train d'avancer d'une façon spectaculaire. Si ce n'est pas un phénomène lié au changement climatique, il y a pire à craindre dans les 2 ans, 3 ans qui viennent. Donc ça fait autant de choses qui font que l'état de notre environnement est précaire.
Après tout, dans des pareils cas, il est judicieux d'identifier les responsables pour parvenir à un bon résultat. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Il n'y a pas 36 solutions à ces problèmes. Okay? Il y a tout simplement à recourir au principe selon lequel qui déboise, reboise. Tant qu'on ne sera pas reboisé, au même rythme que les déboisements sont en train de s'effectuer, alors on aura toujours des regrets ou des larmes à pleurer seulement. D'ici là, nous n'aurons pas de forêt. Vous avez pris votre avion quand vous survolez la ville de Kalemie. Regardez tout autour là. Hein, c'est maintenant un petit désert qui est en train de se constituer. Okay. Alors si nous ne faisons pas des efforts pour reboiser la banlieue de Kalemie, bon, ce désert va commencer à aller jusqu'au bout. Après un temps, nous serons une ville au centre d'un désert comme Dubaï et consorts.
C'est vrai, vous montrez d'un doigt accusateur, mais qui doit faire ça?
Au fond, écoutez, parce que vous posez la question à un environnementaliste, je voudrais vous dire tout de suite là que lorsque les gens vont décimer la forêt, ils payent quelque chose à un service qu'on appelle Fonds forestier national. C'est ce service-là qui est du ministère de l'Environnement. Et celui-là qui doit financer les reboisements dans notre province. Ça s'est fait, ça ne s'est pas encore fait. Bon, de toutes les façons, c'est ça la pratique. On paye pour couper les arbres, on paye pour la coupe des bois d'œuvre, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose qui va pour constituer les fonds de reconstruction du capital forestier.
C'est comprendre autrement que la responsabilité va toujours du côté de l'État que vous représentez, même ici au niveau de l'environnement.
Peut-être en grande partie, oui. En grande partie, oui. Et puis n'oubliez pas que la grande partie de la population de la province Tanganyika, c'est de la population rurale. Cette population ne vit qu'au dépens de la forêt. Il faut chercher la braise dans la forêt. Le bois de chauffe, le bois de cuisson, c'est dans la forêt. Explorons d'abord Kalemie. Parlons de la population rurale. Kisengo, Mbulula, Kacheke, c'est pas moi, on parle à tout ça. On ne voit pas seulement la population de Kalemie. Cette population ne peut pas vivre sans forêt. Alors, s'il faut parler de responsabilité, oui, la responsabilité partagée.
Paul Senga, merci.
Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette édition du journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi.